Et c'est reparti pour les midis deuxième partie. Bienvenue à toutes et à tous. À 13h, comme promis, on discutera avec l'autrice Laura Vasquez. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour Marie.
Bonjour Marie. Alors que le procès de Mazan se poursuit à Avignon, certaines images, pourtant courantes en littérature et en peinture, semblent aujourd'hui problématiques. Ce que l'on appelle communément les belles endormies, ce sont ces femmes souvent peu vêtues, alanguies et endormies, et regardées à leur insu, soumises au désir masculin. Alors que faire de ces fantasmes qui peuplent notre imaginaire culturel commun? C'est le dossier du Point Culture du jour. Sandrine Aragon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante en langue, expression et culture française à la Sorbonne. Vous venez de publier un article sur le site The Conversation sur le rôle de notre imaginaire collectif dans les violences sexuelles et notamment sur le motif des belles endormies. Alors ce fantasme de la femme endormie et de l'homme qui vient la soumettre pendant son sommeil est présent déjà dans les mythes antiques et dans les contes de fées.
Oui, c'est un élément important qu'on va retrouver, notamment Zeus. C'est celui qui va séduire bon nombre de filles endormies. Et puis, on va le retrouver, bien sûr, dans les contes de fées très célèbres, de la Belle au bois dormant à Blanche-Neige, qui est réveillée par un baiser. C'est un fantasme masculin de toute puissance et de domination. Et on va régulièrement voir l'homme dominant qui arrive et de sa superbe va prendre possession de la femme qui se retrouve, si on a pu étudier ça, dans sa plus totale dépendance. Elle est dans son sommeil absorbée, c'est cet absorbement qui justement la rend désirable parce que là il y a une transgression, on rentre à l'intérieur de la femme et à l'intérieur de son isolement.
Alors ce qui est troublant, c'est que ce soit pour des mythes ou pour les contes, ce sont des histoires que l'on raconte, pour les contes de fées notamment, que l'on raconte aux enfants. Comment on peut changer notre approche de ce motif-là, alors même qu'on raconte encore ces histoires aujourd'hui?
Alors, il ne faut pas mettre en cause les histoires et le plaisir de partager les contes. Peut-être qu'il faut les donner à lire avec une lecture moderne aujourd'hui. Et les contes, ils sont là pour éveiller les consciences, pour parler des dangers, pour parler aussi de ce qui est légitime, ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et ils sont là pour amener une discussion entre parents et enfants, entre enseignants et élèves. Et donc, je pense que ça s'est passé notamment, même chez les grands, lorsqu'on a mis Chénier à l'agrégation et qu'il y a eu une grande discussion parce qu'il y avait une scène où un berger voulait séduire une jeune femme endormie, puis elle lui disait non, elle refusait. Et à ce moment-là, à un moment, elle dit « Ah, je me meurs », et c'était lu et interprété par les professeurs traditionnellement comme un désir, l'expression de son désir et de l'amour. Or, aujourd'hui, des étudiants, on peut dire « Ben non, on pourrait peut-être lire ça autrement, c'est peut-être qu'il y a toujours un refus. Est-ce qu'il n'y a pas là un non ?» Et ça, c'est important de lire aujourd'hui aussi autrement toutes ces scènes de séduction qu'on a régulièrement lues comme des aveux de la femme.
Justement, à partir de quel moment ou à partir de quand dans l'histoire le consentement est-il questionné dans la littérature romanesque?
Ça vient très tardivement, on va le trouver seulement au XXe siècle. Par exemple, pour les femmes endormies, on va trouver l'amant du Châtelet où l'héroïne est endormie somnolente vers 1928. On a aussi dans La Belle endormie de Yasunari Kawabata qui présente un vieil homme qui visite justement plein de jeunes filles endormies. Ici, il n'y a pas encore beaucoup de... puisqu'elles sont endormies, on n'a pas de réflexion sur le sujet. Mais peut-être dans Léonore, toujours d'Yves Simon, c'est seulement en 2000 qu'on a là une femme violée dans son sommeil qui considère soudain cela comme une trahison. Et face au déni de l'homme, elle ressent la culpabilité. Donc là, on a vraiment le point de vue de la femme qui est enfin évoqué.
C'est avant.
Problème, c'est toujours le point de vue. C'est ne jamais prendre le point de vue de la femme.
Mais oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est avant tout un regard masculin qui, d'abord, ont écrit, aussi ont peint. On n'a pas parlé de l'histoire de l'art, mais évidemment, ce motif de la belle endormie revient aussi beaucoup dans les peintures classiques. Et avant, alors, comment on fait pour que ce ne soit plus un regard masculin qui nous impose un point de vue? Est-ce qu'il faut, par exemple, lire plus d'autrices pour changer de regard?
Bien sûr. les autrices, elles vont nous donner plus souvent le point de vue féminin aussi sur ce viol, quand l'on lise Marguerite Duras, que l'on lise avant George Sand, et ensuite pour ce qui est de la peinture. Vous avez des quantités d'expositions. Il y en a eu une en 2014 qui s'appelle « Les belles endormies » qui était au musée Bonnard. Et quand vous regardez encore la présentation de l'exposition, il n'est question que de la poétique et de l'érotisme de la femme endormie. Il est question des muses qui ont éveillé les fantasmes des hommes. Mais jamais on ne se prend le point de vue de cette femme, cette muse endormie. Si on regarde celles qui ont été peintes par Picasso, aujourd'hui on sait que le Minotaure, il était assez violent avec ses maîtresses et que ces femmes endormies, elles ont souffert. Elles ont été peintes, elles ont été violées parfois avant, elles ont été victimes de sévices. La plupart des muses de Picasso ont fini folles ou suicidées. Donc aujourd'hui, ça pose quand même une autre question.
Et le mot aussi employé, c'est-à-dire qu'avant, on disait qu'en effet, elles étaient endormies et puis l'homme arrive, la désire et la prend. Aujourd'hui, on parle de viol, ce mot-là, il change toute la donnée en fait. Le simple fait de mettre un mot sur ce qui est en train de se passer ou de changer de mot, de sortir du vocabulaire de la séduction et de passer sur celui de la prédation, change beaucoup notre rapport aux œuvres.
Totalement. On a tous une responsabilité en tant que lecteur et en tant qu'enseignant qui, lorsqu'on transmet une culture, pendant des années, depuis toujours, on entend Valmont a séduit Cécile de Volanges dans Les Liaisons dangereuses. Or, quand on relit le texte, en fait, il la bâillonne, il l'empêche de sonner et il rentre dans sa chambre alors qu'elle dort. Bah, ça s'appelle pas une séduction, ça s'appelle un viol. Elle est vierge, il la condamne puisqu'il lui enlève sa virginité et on va parler d'un séducteur, d'un donjon. On ne peut plus continuer à expliquer les textes exactement comme ça, parce que c'est aussi participer à une culture du viol, ce qui nous amène aujourd'hui à avoir une cinquantaine d'accusés dans les procès de Mazan qui dénient totalement avoir fait quoi que ce soit. Non, 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 ils n'ont pas violé. Ils ont pénétré une femme endormie, c'est tout.
Bien, merci beaucoup Sandrine Aragon pour tous ces éclaircissements.
Merci.